Bonsoir. Des combats intenses à l'arme lourde ont éclaté ce mardi 29 avril dans plusieurs localités des territoires de Walungu, Kabaré et Calais au sud Kivu. Selon des sources locales, des fortes détonations d'armes lourdes et légères retentissent depuis le matin dans toute la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu. Les mêmes sources rapportent que des rebelles de l'FCM-23 venus de Nyangezi via Mushenyi depuis le week-end dernier attaquent les positions des forces armées de la RDC et des groupes Wazalendo. Il y a quelques jours, le gouvernement congolais et la rébellion de l'FCM-23 sous la médiation du Qatar ont signé une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties sont engagées à travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Et à Washington, la RDC et le Rwanda ont signé une déclaration des principes reconnaissant mutuellement leur souveraineté et s'engageant à ne plus soutenir les groupes armés. Pourtant, malgré ces engagements, les armes ne se sont toujours pas tues au nord et sud de Kivu, où les combats se poursuivent, fragilisant ainsi les efforts diplomatiques. Comment expliquer la poursuite des combats malgré les engagements des belligérants pour la cessation des hostilités? Nous en parlons ce soir avec Placide Nzilamba. Il est secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir pour débattre ainsi qu'aux nombreux auditeurs.
Achille Kiapanga également avec nous dans ce studio de Radio Okapi. Il est avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Achille Kiapanga, bonsoir.
Merci madame, je salue tous les unités de la Radio Okapi, les collaborateurs également. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de ne pas nous quitter.
Merci. Régal Mubiri aussi avec nous dans cette émission. Il est avocat, chercheur à Ebouteli, partenaire du groupe d'études sur le Congo. J'ai son site, Régal Mubiri, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs et auditeurs.
Avocat, vous suivez Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans tous les coins de la chefferie de Kaziba dans le territoire de Walungu. Ce mardi, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Les éléments de la FCM 23 venus de Nyangezi via Mushenyi depuis le week-end attaquent les positions des FRDC appuyées par les Wazalendo. Les activités sont paralysées et la population traumatisée selon nos sources. La situation humanitaire demeure critique et les dégâts collatéraux sont énormes. On est les Timbonera pour le reportage.
Les écoles, les commerces et les travaux champêtres qui constituent les principales activités dans ces milieux ruraux sont complètement bloqués. Les habitants souffrent de faim dans leurs maisons où ils se cachent sous les lits et les autres dans la brousse. À partir de Kaziba, les rebelles progressent vers Minembwe dans le haut plateau des Fizi et les autres en direction de Luinja, siège de la principale société aurifère Twangeza Mining. Deux bombes sont larguées partout sans tenir compte des milliers habités par la population. Les dégâts collatéraux sont énormes, témoignent nos sources sur place, même si elles ne sont pas encore en mesure de fournir les bilans. Dans la partie nord de la province, les territoires des Calais est fait aussi face à des poursuites des affrontements ces mardis. Les combats sont en cours depuis le matin à Bouchakou entre l'AFCM-23 contre la coalition Wazalendo. Les rebelles ne cessent de se renforcer en troupes, en armes et en munitions. La population désespérée s'interroge à quand les retombées de pourparlers de paix engagées entre le gouvernement de la République et les belligérants.
Merci Ronelly pour ce reportage. Placide Nzilamba, je rappelle que vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Des combats intenses à l'arme lourde ce mardi dans plusieurs localités du territoire de Walungu, Kabaré, Calais au sud Kivu, alors qu'on s'attendait à une accalmie, hein, cessez-le-feu, après cette rencontre de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. 2023. Comment on peut expliquer la poursuite des combats malgré ces engagements? Il faut signaler aussi que la semaine passée, à Walikale, il y a eu encore des combats après cette signature, des engagements entre les deux parties. Comment on peut expliquer cela?
Permettez-moi, madame, d'adresser encore ma compassion à cette population longtemps meurtrie par les affres de la guerre, et que de leur dire que malgré que toute cette situation pèse sur elle, il y a quand même de l'espoir et que tout le monde se met en marche pour la recherche de la solution. Mais il faudra dire, pour revenir à la question, que cette situation est telle qu'elle aujourd'hui parce que tout simplement il s'observe l'inattention dans les chefs de ceux qui recherchent la solution au problème. Cette inattention consiste à prendre des décisions sans mesure d'accompagnement ou sans mettre en place des mécanismes de mise en œuvre. Et c'est ça le plus grand problème. On prend des décisions, mais on ne met pas en marche des mesures d'accompagnement et des outils ou des mécanismes de mise en œuvre. C'est comme donner à quelqu'un un chèque sans provision. Oui, on reconnaît qu'on a avancé dans le cadre des accords, des consensus signés à Doha, des principes signés aux États-Unis, mais on comprend que sur le terrain, on a oublié de mettre en place des mécanismes qui vont faire exécuter ces décisions. La première décision, et la grande qui a été prise, c'était la résolution 2773. Avec cette résolution, on devait déjà imaginer quelle est la formule qu'on met en place pour stopper ces hostilités, pour commencer à observer les retraits. Mais jusque-là, on continue à tergiverser, on rajoute des textes à textes. Si vous mettez aujourd'hui les textes qui ont été signés sur cette crise Nord Kivu, vous pouvez remplir même des conteneurs. Mais les réalisations sont moins palpables. Je crois que la dimension qu'il faille prendre, c'est de quitter l'aspect des textes vers les réalisations, les mécanismes d'application de ces textes-là. C'est ce qui manque. Et personne ne trompera aujourd'hui le Congolais qui a pas de beaux textes qui ont existé. La résolution, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est l'un des très bons textes pour le Congo.
Et donc c'est ce manque d'accompagnement qui pousse les partis à violer cet engagement qu'ils ont pris.
Ils se sentent toujours sur terrain, sans contrainte, sans quoi que ce soit. Et encore que on reste dans la formule que les accords sont signés de bonne foi. Et que donc cet aspect qu'on appelle bonne foi, les autres en abusent et ont compris, ont bien analysé la faiblesse de ces accords. Et ils comprennent que la grande faiblesse, c'est le compter sur la bonne foi. Maintenant, on doit quitter ce schéma vers un schéma de mesures contraignantes et des outils de mise en œuvre. Vous comprenez que auparavant, quand les Nations Unies avaient compris qu'il y avait une situation très délicate en RDC, avaient pris une résolution et avaient mis en place la mission qu'on appelle MONUSCO aujourd'hui. Si cette mission, aujourd'hui, paraîtrait incompatible avec l'évolution des événements, qu'est-ce qu'on passe mettre en œuvre qui sera plus efficace pour pousser à des contraintes et faire quoi? Et faire revenir ceux-là qui ne jurent que par la force des canons pour faire valoir leurs arguments, à les faire reculer et leur dire non, même les canons ne peuvent rien. Qu'est-ce qu'on dit? Tu crois que aujourd'hui l'argument que les rebelles s'appuient cet aspect de bafouer tous les accords, c'est l'argument militaire. Et ça, on l'a crié maintes fois. Et nous savons que aussi longtemps que les rebelles ne seront pas face d'un argument militaire bien articulé et capable à démasquer leur velléité, ils ne lâcheront pas. En 2013, nous avons vu quand le Congo s'est préparé et l'a fait, et les rebelles ont reculé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'aller maintenant, en combinant les deux aspects, comme on semble avancer sur l'aspect diplomatique et que on laisse le terrain toujours libre aux rebelles à faire ce qu'ils veulent, il y a lieu de combiner aussi l'aspect contrainte avec des mécanismes plus robustes que ceux qui existent pour les contraindre à déposer les
armes. Et qui doit mettre en place ces mesures d'accompagnement, ces mécanismes pour contraindre les partis à respecter tous ces beaux textes qui se signent?
Ce sont ces gens-là qui s'appellent
les chercheurs de la paix à travers le monde qu'il faut signer aux gens des textes. La résolution n'est pas la résolution du Congo. Ça s'appelle résolution des Nations Unies. La déclaration des principes, ce n'est pas la déclaration du Congo. Elle a été signée où? Aux États-Unis. Il y a les communiqués signés, même si ils ont porté des logos et des signatures, mais ce sont des communiqués provenus de pourparlers de Doha. Alors, à ce niveau, c'est de se dire, est-ce que les États-Unis ont un mécanisme de contrainte? Est-ce que Doha a des mécanismes de contrainte? Ou les Nations Unies ont des mécanismes de contrainte pour ramener ces gens à déposer les armes? Chaque jour qui passe, ce sont les vies qui se déciment sur ces zones-là.
Merci, Placido Nzilamba. Chilo Kapanga, vous êtes avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Alors, la déclaration ou la signature de la déclaration conjointe gouvernement M23 ainsi que la déclaration des principes avec le Rwanda a suscité beaucoup d'espoir au sein de l'opinion congolaise. Pourquoi ces engagements, selon vous, semblent ne se traduisent pas sur le terrain, je voulais dire?
Merci beaucoup, madame. Je remercie d'abord le co-débatteur pour son intervention. Moi, j'allais peut-être me poser cette question. Dans quelles circonstances ont été signés ces accords? Il faut d'abord comprendre comment cela est arrivé. Puisque ça a été comme une surprise. Tout le monde ne s'y attendait pas. On a été à Nairobi, on a été à Luanda, on a été presque partout. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, tout le monde était surpris de rencontrer à Doha. De Doha, on apprend qu'on est déjà à Washington. Alors, ce changement, ce virement brisque-là, dirait quoi? Moi, je pense que le président Trump est venu avec une nouvelle philosophie. La philosophie de Trump est venue bouleverser beaucoup de calculs. Alors, comme Kagame connaissait comment s'accrocher, il a su comment jouer, puisqu'il allait tout perdre. Voilà pourquoi, avec ce lobbying, il a réussi à aller jouer pour que ça soit comme si on est en train de faire un accord de paix et qu'on sort. Mais ils se sont basés sur une question très importante. Ils disent que les Congolais parlent de l'intégrité territoriale. On peut leur laisser l'intégrité territoriale, comme c'est le terme qu'ils aiment utiliser, mais on saura comment exploiter ces pays à dépenser cette intégrité territoriale. Hier, j'ai suivi l'ambassadeur, le vice-premier ministre belge. J'ai analysé ce qu'il a dit. Il a pesé certains mots. Si vraiment on avait des politiciens qui peuvent capter à profondeur ce que les hauts cadres de ce monde parlent, on allait comprendre qu'il y a déjà un message très profond. Pourquoi j'ai dit ça? Quand il a voulu rentrer sur la question de l'ECC 5O, il a même parlé de FDLR. Il a parlé d'une question là où tout le monde doit se retrouver dans les pourparlers. Ça montre que la question est encore là. Je disais ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur le terrain, comme c'est le sujet sur lequel nous sommes, à dépit de tout ce qui a été signé, de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, mais rien ne change. Au contraire, la situation semble maintenant s'empirer. Comme tout le monde a été surpris avec ces accords, il faut maintenant que chacun se recherche. Nangé se trouve doit se dire, bon, maintenant que Kagame vient de signer les accords là, nous serons où? Nous ferons quoi? Faisons quelque chose pour que quand on va essayer encore de parler, qu'on parle aussi de nous, que nous soyons aussi quelque part. Parce que le vent là de Trump est venu bouleverser beaucoup de calculs. Maintenant tout le monde veut faire vite vite là, pour que quand on va commencer maintenant à signer les accords proprement dit, comme on parlait de la date de demain, que je sois aussi quelque part avec un argument. Donc tout ce qui ne se passe sur le terrain, ce sont des arguments que les gens veulent créer pour que quand on va parler de la profondeur de la chose, que chacun se retrouve avec un argument. Moi, c'est ça ma première lecture par rapport à toutes ces questions-là. Néanmoins, je pense que notre gouvernement doit aussi faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Puisque nous semblons nous réjouir vite. Quand on dit que c'est le fait, bon, nous faisons comme si c'est déjà fini, on ne s'attend plus à rien. Alors que l'ennemi, lui, s'organise. Voilà pourquoi, quand les organisations de la société civile, comme les co-débatteurs des autres, essaient toujours de crier, de demander que non, soyons toujours vigilants, soyons toujours là. Malheureusement, chez nous, on est dans autre chose. Et c'est ça le danger. Donc, nous risquons de tout perdre à se réjouir trop tôt, très vite,
au lieu de nous organiser pour savoir ce qui peut arriver encore demain. Parce que c'est comme si jusqu'à là, on n'a jamais compris l'ennemi. L'ennemi a tous ces jets-là. Il fait comme s'il est en train de parler, mais entre-temps, il est en train d'avancer. C'est très dangereux, madame.
Magali Jules, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi, la victoire sur un papier imprimé aux États-Unis ou au Qatar ne reflète en rien la réalité du terrain. Les déclarations officielles et les engagements diplomatiques ne suffisent pas à garantir la paix si les actions concrètes ne suivent pas. Tant que les hostilités persistent, ces accords risquent de n'être qu'une poudre de parlimpinpin, une illusion diplomatique qui ne répond pas aux véritables enjeux sécuritaires. Régal Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, Jacques Ossigle. Que pensez-vous de cette réaction?
Je suis d'accord avec l'auditeur. Déjà, on ne peut pas déjà parler à un système diplomatique étant donné que sur le terrain, il y a encore de l'ostentation.
On a du mal à vous suivre, Rigel Miviri. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne téléphonique. Vous avez activé le mode main libre.
Je n'écoute pas.
Vous êtes en mode main libre?
Non. Non, moi là, je
ça s'est amélioré,
bien.
Voilà. C'est bon maintenant. On vous suit.
Super. Donc, je disais que je suis d'accord avec l'auditeur et pour la simple raison qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore parler des succès. Donc, d'où la prudence et la vigilance que demandent plusieurs acteurs de la société civile et que peut-être le gouvernement congolais devrait savoir que, en fait, c'est plutôt une opportunité d'avoir un accord qui soit le plus proche en fait des intérêts du Congo. Nous savons que malheureusement dans un accord il y a des choses que l'on perd, mais on doit faire tout pour que ce soit le plus proche des intérêts du Congo. Et je pense que ça va dépendre de ceux qui vont négocier. Ça va dépendre de du travail qui sera fait en amont. Avant le 2 mai, cette période est consacrée aux travaux techniques. Donc, on suppose que les intelligences congolaises sont en train de travailler afin que l'on puisse arriver à un accord qui soit dans l'intérêt du Congo. Mais il en reste une chose importante qui est la dimension interne de ces conflits. On parle là du conflit RDC-Rwanda, on parle du conflit RDC-M23, mais on ne parle pas forcément de tous les autres acteurs qui sont les Wazalendo, qui sont toutes ces forces étrangères qui sont aussi présentes sur le territoire congolais. Donc, il y a encore une longue marche avant d'arriver à une paix durable. Donc, on ne devrait pas juste se féliciter de ce qui se passe à Doha ni à Washington, mais on devrait aussi travailler sur un processus national qui fasse en sorte que l'on puisse arriver cette fois-ci à une paix durable. Et une paix durable qui va faire en sorte que tous les acteurs, que ce soit armés ou non armés, puissent être mobilisés et que l'État puisse se faire respecter. Parce qu'on ne peut pas faire un accord de paix qui vient plutôt encore fragiliser l'État. On sera en train de repousser juste le conflit à un peu plus tard. Et ça, ce n'est dans l'intérêt des citoyens congolais. Donc, je pense qu'il est encore important de profiter de cette période pour essayer de pousser enfin que cette démarche diplomatique soit le plus bénéfique du Congo. Parce qu'il n'y a pas une réponse militaire à attendre, en tout cas pour l'instant. Mais en même temps, on ne peut pas se fier à 100% à ces deux processus de Doha et de Washington, parce que c'est des processus qui sont dans l'essence même des deals commerciaux. Des deals commerciaux, par essence, ils ne mettent pas forcément l'humain au centre. Alors qu'ici, nous sommes en train de parler de la question de la protection des civils. Et
La question de protection des civils ne va pas se traiter forcément à Doha ou à Washington. Elle ne sera pas la priorité de Doha ni la priorité de Washington. Donc il y a vraiment une nécessité à ce que le Congo soit celui qui défende les intérêts de ses populations et de son territoire. Et je ne suis pas encore sûr que pour l'instant, que c'est ça la démarche dans laquelle on est. Donc c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de réserve sur la démarche et j'espère en tout cas que les intelligences congolaises, que les services secrets congolais sont en train de travailler pour que cette opportunité, cette fenêtre d'opportunité diplomatique soit une bouée pour la République démocratique afin que l'on puisse résoudre les questions urgentes d'aujourd'hui, mais aussi qu'on se protège contre des conflits qui peuvent renaître. Parce qu'on peut bien résoudre la question du M23 aujourd'hui et avoir une guerre de demain qui peut être peut-être la guerre de Ouazalendo. Donc c'est important en tout cas que l'on puisse être prudent.
Malgré tous ces engagements, les armes ne se sont toujours pas tues. On aurait au sud Kivu, les combats se poursuivent, hein, selon plusieurs acteurs politiques et même plusieurs analystes. Tout ceci fragilise les efforts diplomatiques. Régal Mugiri.
Oui, absolument. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que les acteurs qui sont à Washington et à Doha, c'est les acteurs étatiques d'abord. Mais est-ce que tous les acteurs en présence, et surtout ceux qui sont actifs sur le terrain, ils sont concernés par ce qui se passe là-bas? Et quelle est la marge de manœuvre des uns et des autres pour influencer la situation sur le terrain? Voilà, cette analyse, on l'a fait depuis toujours, depuis le cessez-le-feu même négocié par Washington en 2024. Mais encore une fois, on a vu que même cette fois-là, il y avait toujours des escarmouches, il y avait toujours des affrontements. Et d'ailleurs, l'M23 a profité d'une transition politique aux États-Unis pour lancer la grande offensive qui a pris Goma et Bukavu. Donc on ne devrait pas laisser notre destin à la merci des agendas, mais aussi du calendrier interne des autres États. Sinon, encore une fois, on peut voir un nouveau bouleversement et peut-être on ne sait pas si cette escalade ne peut pas aller au-delà. Aujourd'hui, on parle du Sud Kivu. On sait que si le conflit encore intervient, on fait un ralliement entre la crise du M23 et la crise de Haut Plateau, ça va faire en sorte que le Sud Kivu va être encore un problème. Il y a le risque aussi d'embrasement vers Uvira avec une incidence régionale possible entre le Burundi et le Rwanda. Donc on doit être prudent. Je ne suis pas sûr qu'on est déjà au moment de parler de victoire ni diplomatique ni politique. Il y a encore beaucoup de travail à faire et le Congolais devrait passer ce temps-là à se consacrer plutôt à trouver des solutions avant de célébrer quoi que ce soit.
On va ouvrir le standard pour prendre les avis des auditeurs qui sont très très nombreux en ligne, en train d'attendre pour passer en direct dans cette émission. On va aller à Goma, au Nord Kivu, pour écouter Moïse, me signale la réalisation, Moïse qui est en ligne. On l'écoute.
Moïse Andy. J'interviens à partir de Goma. Nous sommes dubitatifs quant à ce qui concerne le sens du sérieux, du respect et de la crédibilité de la part des leaders de la rébellion du M23, pourtant associés d'ores et déjà aux différents processus de paix en cours au Qatar et à Washington aux États-Unis. La reprise des affrontements sur plusieurs fronts, malgré la récente résolution du cessez-le-feu qui a été été conclu récemment entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 via une déclaration conjointe qui a fait la une de l'actualité nous laisse perplexes. Je pense qu'il faille d'ores et déjà des mesures contraignantes qui vont pousser les partis à respecter scrupuleusement toutes les décisions ici des démarches diplomatiques qui sont engagées ça et là. Très précisément, c'est lui de Washington qui donne une lueur d'espoir.
Alors, Placide, c'est là-bas, c'est auditoire, vous rejoint un peu hein, dans votre analyse de tout à l'heure lorsque vous parliez des mesures contraignantes.
Effectivement, c'est un fils, un jeune activiste du milieu qui est bien connu. Donc, il connaît bien sa situation et il sait bien monter une analyse qui est compatible avec sa situation, que je salue d'ailleurs. Et que donc, à notre niveau, c'est dire, il est vrai que sur cette crise, il se développe trop d'éléments de langage. Et parfois, des éléments de langage qui peuvent nous séparer de la vraie réalité des choses. Nous ne sommes pas face d'un ennemi nouveau. Et à terme d'être malade, pendant plusieurs années, on est capable même de dire au médecin, attention, vous voulez me donner ce médicament, mais celui-ci ne correspond pas avec ma maladie. Parce que quand je prends ça, je mets ça comme ça. Donc, c'est comme ça que nous pensons que la donne de la population locale devait être retrouvée dans ces textes qui sont en train d'être signés. Vous savez que ce sont des politiciens et des opérateurs économiques, qui s'enferment pour faire des accords, sans nous, la population qui subissons cette situation.
Vous auriez souhaité que la société civile soit associée
effectivement
à toutes ces rencontres
Effectivement. Parce qu'il y a une donne. Si vous lisez la déclaration de principe, nulle part on ne parle de la justice. Si vous lisez, nulle part on parle de la justice. Quel sera le sort des victimes de toutes ces bombes qui sont en train de tirer matin, midi, soir? Et ne voit que, si vous allez voir, les gros paragraphes sont limités sur les intérêts économiques, le partage des dividendes économiques et consorts. Mais nous, notre gouvernement devait profiter de cette richesse que Dieu a donnée au Congo pour faire une diplomatie économique. Une diplomatie économique qui veut dire nos richesses nous protègent et contribuent à notre développement, tout en les partageant avec les autres. C'est ça la stratégie qu'il fallait privilégier dans toutes ces négociations. Mais malheureusement, bon, nos politiciens préfèrent parfois la gloire du dessus sans toucher le vrai problème. Et je crois que la donne qu'il faut donner à ces pourparlers, il faille qu'il y ait la présence des représentants de la population, pas même des parlementaires, vraiment. C'est ce que même les députés sont laissés, les sénateurs abandonnés, ils ne peuvent pas piétiner là-bas. Qu'est-ce qu'on s'est dit là-bas? C'est ça la question. Parce qu'on nous produit des mesures, mais qui souffrent d'application. Chaque jour.
Et alors, vous pensez que le gouvernement nous cache des choses?
En tout cas, ils doivent être.
Il n'y a pas de transparence.
En tout cas, nous, on suppose qu'ils doivent être dans leur deal. Parce que nous, on ne sait rien de ce qu'ils se disent. Bon, on nous brandit seulement les textes. Comme ça, à un moment donné, il y a même des choses qui ont fuité dans les réseaux sociaux qu'on avait demandé à des délégations d'amener seulement les logos et les signatures. Ça s'est dit ici. Est-ce que tout ça, on nous a donné les détails? Nous voyons seulement les textes et on commence à nous expliquer des choses. Je crois que cette sorcellerie politique ou le fétichisme politique qu'on est en train de créer sur la crise risque d'abîmer la démarche et laisser cette population elle-même guider son sort. Ça sera aussi la façon de respecter cette population et de la mettre au centre de la solution. On ne peut pas trouver la solution sans nous, madame.
Alors, il y a Frédéric qui nous écrit depuis Goma, au nord Kivu, qui dit que les FRDC respectent les cessez-le-feu. C'est plutôt les Wazalendo qui se battent contre le M23. Parlons de Wazalendo. C'est quoi leur statut aujourd'hui?
Non, bon, c'est quoi leur statut? Leur statut découle de la Constitution de la République, parce qu'ils avaient été appelés par le commandant suprême. C'est le président de la République lui-même qui avait lancé un appel pour dire tout celui qui a le moyen de le faire, de venir défendre la patrie. Il appartient
mais
maintenant.
Mais pourquoi ces derniers n'observent pas les cessez-le-feu comme les FRDC?
Moi, je crois qu'ils sont en appui au FRDC.
Et ce sont les FARDC qui prennent le relais. Il appartient aux FARDC de faire quoi? D'augmenter une dose de gestion et de contrôle à ses compatriotes. Parfois, bon, quand vous venez aider quelqu'un et que quelqu'un ne fait pas, ne vous montre très bien, ne montre pas très bien le chemin, il y a lieu de s'égarer. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut encadrer. Et nous l'avons dit à maintes reprises. C'est quelque, oui, les gens sont venus. Mais qui pour les encadrer? Qui pour se soucier de leurs problèmes? Parce qu'on le voit même produire des déclarations que ici nous sommes maltraités, ici nous. Donc tout ça, ça s'est dit. Donc c'est un problème entre nous, Congolais, qu'on doit régler à l'intérieur. C'est pourquoi nous disons, si aujourd'hui même ces accords-là ne tiennent pas debout, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint, on n'a pas beaucoup travaillé sur l'organisation interne de notre système de défense. Je crois que ce serait le moment que le gouvernement devait s'asseoir avec toutes les couches pour dire quelles sont nos failles, quelles sont nos faiblesses, que connaissent nos forces sur le terrain, et sur quel point travailler pour ainsi améliorer la donne et faire en sorte qu'on impose l'argument congolais sur les champs, sur le théâtre des affrontements, et faire stopper toutes ces bombes qui tirent. C'est là où nous devons aller. Je crois que le gouvernement ne doit pas se fatiguer ou tomber dans une paresse de chaque jour réfléchir sur des mécanismes à monter pour résoudre cette question et parfois beaucoup fournir des forces sur l'organisation interne.
Après Goma, on va se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter cet autre auditeur qui est déjà en ligne.
Je suis David Tibankundi depuis Lubumbashi. Il est clair que les discussions en cours ne sont pas claires ni constructives pour toutes les parties prenantes, d'autant plus que les revendications de chacune des parties ne sont pas à satisfaire l'autre. Je me demande en quoi initier les discussions exclusives au lieu des discussions inclusives. D'un côté à Doha où un flou semble régner sur les objectifs clairs et de l'autre côté aux États-Unis où la partie rebelle semble être ignorée. La question est de savoir, faut-il réellement faire confiance à ces démarches diplomatiques qui sont presque un passe-temps par rapport à la situation actuelle du pays, ou bien recourir à la résolution profonde et lointaine du problème.
Maître Chire.
L'auditeur vraiment a se poser des questions, c'est dans ses droits. Avant de lui répondre, moi je pense que je voulais partager un peu cette réflexion. On parle minerai contre sécurité. C'est presque ça le vocabulaire. Mais on a des situations dans les Katanga avec les mining et consorts. Qu'est-ce que cela a pu améliorer au quotidien de nos Congolais qui vivent là-bas? Parce que là, au moins, les minéraux sont exploités presque régulièrement. Est-ce que vraiment on peut avoir des leçons positives qu'on peut tirer de ce qui se passe au Katanga, par exemple, de ce qui se passe à Walikale, de ce qui se passe partout là où il y a des mines? Quand nous devons voir la situation du président Trump aujourd'hui, la façon dont il a malmené presque tous les États du monde avec les taxes là qu'il a voulu augmenter, les dédouanements et consorts là. Bon, Trump a quel intérêt chez nous au Congo? Est-ce que le Trump voit les Congolais, comment il traite les Congolais? Parce que nous risquons de nous fier sur quelqu'un qui ne nous voit même pas. Lui voit juste ce qu'il aura au Congo, le reste le concerne moins. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons nous poser aussi une question. Pourquoi le Rwanda est devenu une plaque tournante? Puisque un pays comme le Rwanda, qui parvient à faire face à la Belgique, au rôle des relations diplomatiques, vous sentez que vraiment c'est de la bonne guerre. Le vice-premier ministre belge a été en tournée dans cette partie, il n'a même pas parlé, du Rwanda n'est même pas arrivé au Rwanda. Ça montre que le Rwanda a déjà réussi quelque part à atteindre un niveau que les Congolais n'ont jamais atteint. Quand le Rwanda est en train d'imposer des lois pour la conservation de la nature, pour peut-être respecter les normes mondiales, nous sommes en train de construire sur les rails des chemins de fer, nous sommes en train de créer des embouteillages, nous sommes en train d'avoir des histoires qui n'ont pas de sens. Ça fait que lui évolue, mais nous sommes en train de reculer. Alors, même si aujourd'hui on peut venir dire non, nous travaillons ensemble avec le Rwanda, l'exploitation sera ceci, sera cela. Mais lui est dans son organisation, il sera toujours en avance par rapport à nous. Nous pouvons penser qu'on soit en train de travailler avec lui, mais lui est en train de nous exploiter. C'est une sorte de sous-traitance. Donc, les questions congolaises seront sous-traitées au niveau du Rwanda.
malheureusement, les politiciens congolais n'ont jamais compris ça. Le co-débatteur a soulevé un aspect très important. Quand il a parlé du fait que les gens ne voient que leurs intérêts économiques et consorts. Mais moi, je vais ajouter une chose. Les Wazalendo, aujourd'hui, qui sont une force, même si les uns semblent les négliger, Madame Coulet, Madame a parlé de leur base, moi je pense que c'est l'article 63 de la Constitution, puisque la Constitution permet à ce que tout Congolais puisse défendre l'État partout où il se trouve. Donc, on ne doit pas coller les Wazalendo, peut-être au gouvernement, ou bien, qui que soit le nom, ce sont des patriotes congolais qui sont dit que non, finalement, ça ne va pas, notre plan de partir, le font nous.
On ne doit pas les coller au gouvernement.
C'est non, madame, le gouvernement, lui, a la rade. Le gouvernement a déjà voté une loi, la RAD. Et pour être membre de la RAD, il y a certaines conditions.
Mais qui gère ces gens? Qui gère les Wazalendo?
Quand les Congolais s'organisent, c'est une organisation
qui... Ils sont gérés et payés par qui?
Je n'ai jamais vu une liste de paix pour les Wazalendo. Ce sont des
bénévoles, ils ne sont pas payés.
Madame, ce sont des patriotes qui sont debout et qui travaillent. Des fois, dans des villages, on peut cotiser 5-10 francs.
Qui les arme?
Madame, tous les groupes armés qui sont allés, qui
pillent les armes. On parle de Wazalendo.
Non, non. Je pense que la question d'armement au Congo, même dans cette partie de l'Afrique centrale, pose problème. Comme les Mbororo qui sont avec les armes et les vaches là-bas chez nous. Qui les arme? Tous les milices là, qui les arme? La question d'armement au Congo, c'est déjà des villes de business. Minerai avec armes, tout. Ça, c'est une question profonde. D'ailleurs, il faudra qu'on puisse encore revenir sur cette question pour comprendre qui arme qui dans ce pays. Donc, les Wazalendo sont des compatriotes. Et si aujourd'hui, on semble négocier sans penser aux Wazalendo, on se trompe. Si on semble négocier sans penser à l'ECC et Senko, on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là. Comment là où les chefs de l'État ont déjà été, mais la CENCO et l'ECC rentrent encore là-bas. Ce sont des questions quand même qui doivent un peu tirer l'attention des uns des autres. Voilà pourquoi j'avais dit un jour ici que j'avais beaucoup regretté quand Eberand a reçu tout le monde ici. C'était pour moi l'occasion pour lui de recevoir les rapports de la CENCO et de la SADEC. Les choses de l'État auraient déjà tout avec lui. Donc, pour dire quoi, madame, l'inclusivité, c'est une question importante dans ce pays. Si on ne parvient pas à parler de l'inclusivité. Vous pensez que c'est devenu une affaire de certains individus et que les autres ne sont pas concernés, on ne va pas réussir cette question. Même cet petit monsieur, il fait l'écouter. Aujourd'hui, les mêmes gens-là, qu'on semblait négliger les Lubanga, les Koye, qu'on sort là, sont en train de faire mal à l'air de ça aujourd'hui. Donc, dans ce pays, depuis un certain temps, tout le monde a déjà su que pour se faire une santé politique, il faut peut-être prendre les armes, il faut faire cela. Et là, on devient quelqu'un. Malheureusement, le co-débatteur l'a dit, l'aspect lié aux sanctions. Pourquoi ces gens-là, après avoir fait tout ça, sont amnistiés? C'est ça la faiblesse.
Merci.
Et aussi longtemps que nous demeurons dans cette faiblesse-là, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, un cercle vicieux et on ne sera jamais en paix dans ce pays, madame.
On va aller cette fois-ci à Bukavu pour écouter Franklin Matumaini qui attend en ligne.
Franklin Matumaini, depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Les combats qui se poursuivent sur les différents fronts au Sud-Kivu sont la conséquence de la désorganisation de notre système de défense. Car les FRDC étant une armée officielle, bien organisée et structurée, observent les cessez-le-feu. Mais ceux qui se battent avec les éléments du M23 sont les Wazalendo, car ils répondent à plusieurs commandements. Bien que le processus de paix peut être signé de bonne foi par les autorités congolaises, nous nous demandons sur leur capacité de contrôler et maîtriser les Wazalendo que le gouvernement a déjà légitimé. Les deux parties jouent plus à la prévention et à la stratégie où l'on veut avoir une grande zone d'influence afin de se mettre dans une bonne position de négociation. À mon avis, le gouvernement perd plus de temps à chercher des solutions ailleurs, alors que la solution est à l'interne. Mais visiblement, le gouvernement préfère faire une solution externe pour un problème interne que lui-même a internationalisé.
Regan Miviri, réaction.
Je pense que l'auditeur a compris en fait ce qui se passe dans sa zone exactement et pour moi, le côté national de ce conflit doit être pris en compte, c'est pour ça encore une fois Je répétais qu'il y a besoin d'avoir un processus national, mais bien sûr les dimensions internationales et régionales de ce conflit doivent être prises en compte aussi, et c'est là que les différents processus Doha et Washington sont pertinents, mais tout dépendra de ce qu'on en fait. Quand on est invité autour de la table, ce qui est déterminant, c'est ce qu'on fait autour de cette table-là. On peut, si on est bien préparé, on peut changer la donne autour de cette table-là. Parce qu'on ne doit pas nous faire croire qu'aujourd'hui, il y aura un rebondissement militaire de dernière minute. Moi, je ne le vois pas venir. On l'a entendu pendant plus de 2 ans et je doute que ça arrive aujourd'hui. Donc, on doit nous consacrer sur ce qui est faisable et ce qui est dans l'intérêt du Congo. Bien sûr, avoir une armée, c'est une nécessité pour le Congo et ça doit être le projet d'une vie. Ça doit être la vision des gouvernants d'aujourd'hui et de demain. Mais entre-temps, on doit mettre fin à cette crise d'abord. Et puis ensuite, construire un État pour permettre à ce que ce qui nous est arrivé ne nous arrive plus. On doit avoir des garanties de non-répétition. Et ces garanties de non-répétition-là, on ne peut les avoir que si nous-mêmes, nous mettons en place des mesures qui permettent que les gens ne soient pas capables de faire ce qu'ils nous font aujourd'hui. En fait, les gens peuvent vouloir agresser un pays, mais si le pays a fermé la porte, il s'est protégé, il ne le sera pas. Donc, on ne peut pas tout simplement passer le temps à dire qu'on est agressé, alors qu'on ne construit pas un système de protection autour de nous. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose que je ne cesse de répéter. On ne peut pas juste parler de l'intégrité territoriale et de la protection du territoire. On doit aussi parler de la protection des civils. Encore une fois, on parle beaucoup plus de la protection d'un territoire, mais on parle moins de la protection des Congolaises et des Congolais. En fait, ce territoire, il est le Congo parce qu'il y a des Congolais et des Congolaises qui y habitent. On doit cesser de considérer ce pays comme juste un espace où on peut venir et faire du business comme c'était à l'époque de l'État indépendant du Congo, où c'était en fait un store, un lieu où on vient, on extrait ce dont on a besoin pour construire son avenir en Europe, aux États-Unis et consorts. Ici vit des humains, ici vit des destins. Et chaque fois qu'il y a un conflit pareil, c'est un conflit qui touche des vies, qui touche des humains. En fait, cette guerre a un visage. Le visage de cette guerre, c'est cette maman qui s'est déplacée vers Goma, qui a été sous la bâche pendant plusieurs mois, et qu'ensuite, quand les rebelles sont arrivés à Goma, ils l'ont poussée à regagner son village. Elle arrive dans son village et n'a plus rien à faire parce qu'il y a quelqu'un qui habite son village, habite sa maison et n'a plus où commencer un champ et tout ça. C'est ça le visage de cette guerre. Et si cette guerre, on ne la voit pas par ce visage-là, on risque de penser qu'un deal à Doha sur le minerai, sur des échanges économiques, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant pour une entreprise Qatari, pour une entreprise américaine, pour une entreprise rwandaise et peut-être pour l'élite et les commerçants congolais. Mais pas pour le citoyen lambda. Pas pour un citoyen qui est à Kampala, qui est, je ne sais pas, à Bujumbura, qui voudrait revenir dans son Walungu natal. Vous voyez? Donc, on doit aussi parler de la protection des civils. On doit parler des dividendes de paix qu'on doit voir sur le terrain. Ici, il ne s'agit pas des égos de gens, il ne s'agit pas de protéger un régime, mais de protéger le Congo et les Congolais. Parce que parfois, c'est deux notions qui sont antagonistes. Donc, il y a des gens qui pensent que protéger le Congo, c'est protéger les territoires sur lesquels il y a des minéraux dont ils ont besoin. Et peu importe si ça signifie
que le Congolais meure, ça les importe peu. Donc on doit mettre encore l'humain au centre, on doit, dans nos débats, on doit encore parler de la sécurité humaine, et ça doit être en fait le prisme par lequel on juge si un processus est un succès ou pas.
Merci.
Et pour l'instant, sous ce prisme-là, il est difficile de dire si les processus actuels vont nous amener à un succès.
Honoré Sambo, vous nous suivez depuis la famille, hein, la province d'où vous nous suivez. Pour vous, vous pensez que c'est une raison de plus qui prouve que les autorités doivent mettre leur ego de côté et agir avec sagesse en mettant tout le monde autour de la table. Si c'est la paix qu'on veut réellement, Ismaël Junior, oui. Alors vous êtes à Bukavu. Vous dites qu'à Kinshasa vous êtes en paix, mais ici nous sommes en train de souffrir. Robert Moufariti, vous nous suivez depuis Bukavu aussi. Plus précisément, vous dites que vous êtes à 30 km de la ville, dans les carrés miniers de Luhihi. Freddy Bouchaguzi, c'est normal en résolution des conflits, du fait que le M23 ne sait à quel sens se vouer. La RDC devrait faire des mêmes et que tout s'arrange pour des partages. On ne peut pas finir un conflit de décennies en 15 minutes. On a oublié un élément. La mise en application coercitive et une force de la mise en exécution. Voilà, c'est votre réaction. Christian Ishara, ensuite qui vaut précisément à Kabare, il n'y a même pas un FRDC, il n'y a même pas un seul FRDC, seuls les Wazalendo qui sont sur place, et également à Calais. Vous êtes très très nombreux à réagir au thème de ce soir, hein. Voilà, vous êtes très nombreux, on ne peut pas lire toutes les réactions. Freddy Batejejo, voilà, le gouvernement congolais fait une politique de complicité car il prive Wazalendo qui ont prouvé leur bravoure en combattant l'ennemi et préfère armer les FARDC qui à leur tour abandonnent entre les mains des agresseurs. Alors, on a parlé de la situation humanitaire, hein, Miviri a soulevé la question de la situation humanitaire qui demeure quand même assez critique avec tous les dégâts collatéraux qui s'en suivent. Placide Nzilamba, juste un mot par rapport à cette situation.
Madame, la question humanitaire, elle est devenue, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, la même question revient. Ne pensez-vous pas que la solution à l'humanitaire n'est plus les médicaments, la farine qu'on sort à manger quoi, et à se vêtir? La plus grande réponse aujourd'hui à l'humanitaire, c'est de mettre fin à cette guerre. C'est ça la vraie réponse. Parce que, à force de demeurer dans les urgences, on a tendance à oublier qu'il y a une solution durable à imaginer ou à inventer. Et que donc, à notre niveau, nous pensons que c'est le meilleur moment où il faut faire un bon diagnostic de ces problèmes et y trouver de bonnes solutions. Et le premier acteur dans ces solutions s'appelle le gouvernement congolais et peuple congolais. C'est nous qui devons trouver la solution à ce problème.
Alors, en conclusion, Placide Nzilamba, quels sont vos espoirs et vos craintes concernant l'évolution de la situation sécuritaire dans le Kivu?
Effectivement, la crainte, c'est de voir qu'on sera en train de faire des accords sans imaginer les mécanismes d'application. Et à notre niveau, l'opportunité, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont la bonne volonté de nous accompagner pour trouver la solution. Mais c'est à nous, les Congolais, de les amener vers des alternatives ou des initiatives qui vont faire en sorte qu'il y ait des mesures prises ou des décisions prises et leur application soit effective. C'est ça la tâche du gouvernement. Et le gouvernement ne doit pas en faire comme c'est son propre problème. Ça doit être un problème partagé entre les Congolais et dire qu'est-ce que les Congolais pensent de ces problèmes et recueillir leur point de vue et faire ce qu'ils pensent et non aller s'enfermer avec des gens qui ont peut-être d'autres intérêts aussi sur le Congo. Je dois rappeler ici, madame, que le Congo a été colonisé sur base de ses richesses. Et aujourd'hui, nous continuons la même chose sur base des mêmes richesses. Nous devons maintenant imaginer des alternatives pour faire de ces richesses notre bonheur et non notre malheur.
Achille Kepanga, quelles sont vos recommandations aux autorités congolaises pour une résolution durable de ce conflit? Soyez concis, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que la première recommandation est simple. On doit d'abord être sérieux. Quand on n'est pas sérieux, on ne peut jamais faire des choses sérieuses. Et si tu n'es pas sérieux et que les autres le sachent, ils vont te prendre de moins sérieux et tout ce qu'on va faire avec toi, on ne fera que te rouler. Donc, nos autorités, à tout niveau, doivent d'abord être sérieux. Et de deux, la cohésion. J'ai toujours insisté. Madame, nous avons trois institutions, trois pouvoirs dans ces pays. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Je suis souvent touché quand je vois les fissures au sein de ces trois pouvoirs. Au sein de que ces trois pouvoirs ne seront pas unis et travaillent dans le respect de nos textes légaux. L'Assemblée qui fait ces histoires contre peut-être l'exécutif, l'exécutif qui fait ces histoires contre le judiciaire, bon, toutes ces questions-là mises ensemble constituent un danger dans notre pays. Aussi longtemps qu'on ne saura pas respecter ce triangle-là, ce sera un danger. Et de trois, j'ai semblé suivre. On a doublé le salaire des militaires et qu'on sort. C'est bon. Mais doubler le salaire des militaires, est-ce que l'impact est en train d'être suivi sur le terrain? Parce que la situation telle que je sens de la crainte aujourd'hui, c'est que les amis des M23 risquent de profiter de ce temps où on sera en train de chercher à signer les accords pour faire n'importe quoi. Et malheureusement, ce sont les Congolais toujours qui en seront victimes, qui sont en train de mourir, de faim, de tout ça. Donc, il y a lieu que les mesures d'encadrement sortent le plus vite possible, qu'en attendant que les accords soient peut-être signés, à dépit de la bonne foi, voilà les normes qu'on fixe et qu'on charge même la MONUSCO d'en assurer le suivi. Mais merci. Si on laisse à ces gens-là l'état mort pour faire tout ce qu'ils veulent faire, vous verrez demain, ils vont encore continuer à conquérir des milliers et le peuple sera encore en fuite, la souffrance va toujours continuer, parce qu'elles veulent avoir des justifications, des arguments, pour qu'il ne soit pas absent, qu'on va partager ces gâteaux, comme d'habitude, madame. Et c'est malheureux.
Merci, Achille Kepanga. Monsieur Maître Miviri, quelles mesures concrètes et vérifiables pourraient être mises en place pour s'assurer que les engagements diplomatiques se traduisent réellement par une cessation des hostilités et une amélioration de la situation sécuritaire dans le Kivu, surtout pour les civils?
Déjà, il faut que ceux qui sont à l'initiative de ce processus se portent garant de résultats de ce processus. Donc, que ce soit Washington, que ce soit le Qatar, ils doivent pas seulement être médiateurs, mais ils doivent aussi être des garants de ces accords. Parce qu'ils ont intérêt, en fait. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire parce que c'est dans leur intérêt. Deuxièmement, et peut-être que c'est la chose la plus importante, le Congo doit juste considérer que Doha, Washington, c'est un cadre, c'est un terrain de jeu où lui, il doit venir jouer son propre jeu. Et il doit amener ses propres priorités. Et il doit avoir des objectifs qu'il veut, il veut atteindre au travers de ces processus. Ce n'est que ainsi qu'on va sortir là-bas avec un accord qui soit le plus proche des intérêts du Congo. On sait qu'il y a des choses qu'on a déjà perdues. On a déjà perdu des milliers de Congolais dans cette guerre. La seule chose par laquelle on peut les honorer, c'est de se rassurer qu'on arrive à une paix durable. Et on ne peut y arriver que si on met toutes les intelligences ensemble. C'est là que je me réjouis encore une fois, et ce sera ma dernière intervention, à tous ceux-là qui sont en train de parler de la cohésion nationale. On ne peut pas être fort à l'extérieur si on n'est pas fort et uni à l'intérieur. Donc, toutes les questions qui nous divisent, les questions politiques, devaient être traitées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir Doha ni Washington sans avoir un processus de Kinshasa ou un processus de Kisangani ou un processus de Bunia, peu importe comment on va l'appeler.
Merci.
Il est important d'avoir un processus interne et c'est là où on va aussi se parler entre Congolais et Congolaises. Et c'est important que l'on puisse le faire le plus vite possible et ça va nous donner la force à l'international et au régional.
Merci Erigan Mibiri, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Etienne Lissungu, Bertin Kasiyama, Jonathan Fonani, Hervé Voka, Clément Chimanga, Mimi Kindou, était à la mise en onde. Martin Sebouchangwe a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kéline Pouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.